de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Kyrgyzstan souhaite étudier le contre-terrorisme en Indonésie. Malaisie condamne fermement l'attentat suicide de Polsek dans l'ouest de Java. États-Unis félicitent l'Indonésie pour le succès du sommet du G20 à Bali. Indonésie ouvre des opportunités pour placer des travailleurs migrants indonésiens PMI dans le secteur du tourisme au Japon. Investissement et l'espoir de relancer l'économie en pleine crise mondiale. Ministre indonésienne de la main-d'œuvre invite l'Asie-Pacifique à faire pression pour une reprise centrée sur l'humain. Et Indonésie et la Nouvelle-Zélande discutent de la coopération en matière de garantie des produits halal. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le chef de cabinet du président de la République d'Indonésie, Muldoko, a rencontré une délégation de 11 hauts fonctionnaires de la République du Kyrgyzstan et des représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à Jakarta, mercredi. Ils souhaitent étudier la gestion des actes criminels, de terrorisme et de violences extrémistes en Indonésie. Le ministre de la Justice du Kyrgyzstan, Ayaz Baitov, dans un communiqué de presse du bureau de personnel présidentiel reçu à Jakarta mercredi, a déclaré que le gouvernement indonésien ne discute pas seulement des sanctions pénales pour les autres actes de violence extrémiste et de terrorisme, mais dispose également de mécanismes de prévention et de réhabilitation. Par conséquent, le système de surveillance et de mise en œuvre de la détention des autres de terrorisme et de violences extrémistes en Indonésie devrait servir de modèle. Le ministre Ayaz Baitov a déclaré que l'expérience indonésienne était une leçon unique pour le Kyrgyzstan. Par conséquent, cette fois, le Kyrgyzstan est venu en Indonésie avec une importante délégation. La Malaisie condamne fermement l'attentat suicide qui s'est passé au bureau de la police à Java Occidental en Indonésie, mercredi à 8h20 heure locale. Dans sa déclaration à Putrajaya, le ministère malaisien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances et sa sympathie au gouvernement indonésien et aux familles des victimes de l'attaque. La Malaisie prie également pour que les victimes blessées de l'explosion se rétablissent rapidement après l'attaque qui aurait entraîné la mort d'un policier, tandis que 7 autres policiers ont été blessés. La déclaration indiquait également que la Malaisie espérait que la partie à l'origine de l'attaque serait traduite en justice immédiatement. L'ambassade de Malaisie à Jakarta a confirmé qu'à ce jour, aucun Malaisien n'a été signalé comme victime de l'attaque. Les États-Unis félicitent le gouvernement indonésien d'avoir réussi à accueillir le sommet du G20 de cette année qui s'est tenu à Bali en novembre. L'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Sung Yi Kim, à l'ambassade des États-Unis à Jakarta, a déclaré mercredi qu'avec tant de réalisations sur la scène mondiale, il est clair que l'année qui a accueilli le sommet du G20 en Indonésie a été un triomphe. L'ambassadeur a également félicité la présidence indonésienne du G20 pour le renforcement de l'architecture mondiale de la santé, notamment le lancement du fonds pandémique qui créera un monde plus sain et plus sûr. Il a ajouté que les États-Unis sont fiers de s'engager à verser 450 millions de dollars ou environ 7 000 milliards de roupies pour aider à combler le déficit mondial de financement de la préparation à une pandémie. Le secrétaire général du ministère de la Main-d'œuvre, Anwar Sanusi, a tenu une réunion bilatérale avec la vice-ministre japonaise de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Yoji Kobayashi, pour discuter plus avant des possibilités de placer des travailleurs migrants indonésiens, PMI, dans le secteur du tourisme au Japon. Anwar, dans une déclaration écrite du ministère indonésien de la Main-d'œuvre, a déclaré que le tourisme japonais connaît actuellement une augmentation de sorte que le besoin de disponibilité de travailleurs, y compris d'Indonésie, est assez important. La réunion qui s'est tenue en marge de la 17e réunion régionale de l'Organisation internationale du travail OIT Asie-Pacifique à Singapour, mercredi, vise à assurer l'ouverture d'opportunités de placement PMI dans d'autres secteurs dans le cadre de l'accord de partenariat économique indonésien-japonais, IJEPA. Anwar a demandé que le gouvernement japonais puisse encourager l'expansion du secteur du placement des PMI par le biais du programme IJEPA, comme l'a proposé le gouvernement indonésien et la coopération dans le développement de la formation en japonais et de la formation des soignants pour les PMI. Le secteur de l'investissement est considéré comme le seul espoir du gouvernement pour augmenter la croissance économique face à la menace de la crise mondiale actuelle. L'adjoint à la coordination de l'investissement et de l'exploitation minière au ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Septian Haryoseto, dans le cadre du forum de partenariat pour l'investissement surveillé en ligne à Jakarta mercredi, a estimé que l'investissement est la clé de la croissance économique car la consommation et les performances d'exportation et d'importation seront assez déprimées par les conditions actuelles. Seto a expliqué que le pouvoir d'achat des gens en 2023 devrait diminuer parallèlement à la réduction des incitations accordées pendant la pandémie de COVID-19. La pression sur les taux d'intérêt est considérée comme une cause de réduction de la consommation des ménages. D'autre part, la consommation publique devrait également subir des pressions car le déficit budgétaire sera à nouveau fixé à moins de 3%. Par conséquent, il considère l'investissement comme la clé de la résilience économique dans les années à venir, en particulier avec les conditions mondiales pleines de défis. Il a également encouragé la mise en place de partenariats entre grands entrepreneurs et entrepreneurs des régions et MPME. La ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, invite les pays de la région Asie-Pacifique à faire pression pour des efforts de relance inclusifs et centrés sur l'humain. Conformément à la campagne de l'Organisation internationale du travail OIT, selon lui, ces efforts sont importants pour que la région puisse se remettre de la pandémie de COVID-19, qui est la plus touchée par les groupes vulnérables. Cette invitation a été transmise par la ministre indonésienne de la main-d'œuvre, Ida Fauzia, lors de la prononciation d'un discours national représentant l'Indonésie lors de la 17e réunion régionale Asie-Pacifique de l'OIT à Singapour mercredi. Selon Ida Fauzia, il est temps que l'Asie-Pacifique se lève d'une voix plus forte et égale pour répondre à ces tensions en promouvant la coopération solidaire, la justice sociale et l'esprit. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère de la Religion, a discuté de la coopération liée à l'assurance des produits halal, JPH, avec la Nouvelle-Zélande. Lors de la visite du vice-ministre de la Religion Zainul Tauhid Saadi dans le pays, la discussion concernant cette collaboration est devenue l'un des sujets de discussion lors de la réunion entre le vice-ministre de la Religion et le ministre néo-zélandais de l'Agriculture, l'honorable Damien O'Connor. Lors de sa visite du 2 au 6 décembre 2020, la discussion sur la coopération a été menée en tenant compte que l'Indonésie veut devenir un leader de l'industrie halal mondiale en 2024. Zainul Tauhid, cité dans un communiqué de presse mercredi 7 décembre 2020, espère que les deux pays donneront immédiatement suite aux pourparlers qui ont eu lieu en vue d'une coopération plus concrète à Corde. Il a souligné qu'il existe de nombreuses opportunités de coopération pour garantir les produits halal pouvant être réalisés avec la Nouvelle-Zélande, notamment celles liées à l'approvisionnement en viande halal. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre Forum indonésien sur l'investissement et le réseautage. Je veux dire le réseautage. Le consulat général d'Indonésie à Hong Kong, soutenu par l'ambassade d'Indonésie à Pékin et le ministère de l'investissement, le conseil de création des investissements a organisé une activité de promotion des investissements indonésiens intitulée Forum indonésien sur l'investissement et le réseautage à Hong Kong le 3 décembre 2022. La tenue du forum d'investissement vise à renforcer et à faire progresser les relations économiques entre l'Indonésie et Hong Kong, en particulier l'investissement, et également à soutenir les efforts de relance de l'économie nationale après la pandémie de COVID-19. L'ambassadeur de l'Indonésie à Pékin, Jauhari Oratmangun, devant des hommes d'affaires et des investisseurs de Hong Kong, a souligné que maintenant était le meilleur moment pour améliorer et développer les affaires en Indonésie. Il expliquait que les opportunités d'investissement offertes par l'Indonésie comprennent des plans pour la capitale de l'archipel avec un concept de ville verte, des ressources minérales en aval, le développement des batteries au lithium, des transports, des énergies renouvelables et de la réduction des émissions de carbone, des infrastructures de santé et de la transformation numérique, tout en tenant compte des principes d'utilisation de la main-d'œuvre locale, de respect de l'environnement et de valeur ajoutée et les engagements de transfert de technologie. Par ailleurs, le consul général de Hong Kong, Ricky Suendar, a réitéré l'engagement du gouvernement indonésien à poursuivre son programme de réforme structurelle, de déréglementation et de débureaucratisation des investissements. Le gouvernement indonésien continuera de superviser les efforts visant à garantir la sécurité juridique et à accroître la facilité de faire des affaires et d'investir en Indonésie. Les opportunités d'investissement offertes par l'Indonésie, comme l'a indiqué l'ambassadeur, avec bien sûr la spécificité de Hong Kong en tant que deuxième plus grand investisseur en Indonésie. L'agent à la promotion des investissements du Conseil de coordination des investissements, BKPM, Nur Ihwan, qui était présent virtuellement, a présenté diverses commodités d'investissement en Indonésie, y compris divers programmes d'exonération fiscale dont les investisseurs peuvent bénéficier et les secteurs d'investissement prioritaires qui ont une valeur ajoutée. Il existe également diverses opportunités d'investissement dans la nouvelle capitale nationale telles que les infrastructures de base, le développement énergétique, le transport, l'éducation jusqu'aux énergies renouvelables. Plusieurs investisseurs potentiels ont immédiatement exprimé leur intérêt à poursuivre avec le consulat indonésien à Hong Kong et les agents d'investissement à l'ambassade d'Indonésie à Pékin. Ces auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 décembre 1941. Les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon. Le 8 décembre 1941, le Congrès des États-Unis déclare la guerre au Japon en réponse à l'attaque surprise de ce pays sur Pearl Harbor la veille. Le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, s'est adressé au Congrès et a déclaré que le jour de l'attaque était un jour mémorable comme une abomination. Une heure après le discours, le Congrès américain a publié une déclaration officielle déclarant la guerre au Japon. Passons maintenant à l'événement du 8 décembre 1965, l'anniversaire du militant indonésien des droits de l'homme, Munir. Munir est un militant indonésien des droits humains. Il est impliqué dans le traitement et la défense de plusieurs cas de violation des droits de l'homme en Indonésie sous le règne du président Suharto. Il est l'un des fondateurs de l'organisation gouvernementale Commission pour les personnes disparues et les victimes de violences contrastes et impartiales. Il a remporté le prix du bon moyen de subsistance avec trois autres personnes. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 décembre 1980, le décès de John Lennon. John Winston Lennon était un chanteur, compositeur, instrumentiste, écrivain et militant pour la paix. Il est également connu comme membre des Beatles. Le 8 décembre 1980, il est abattu par son fan, Mark David Chapman, devant son appartement à New York. John Lennon a été transporté à la hâte à l'hôpital et déclaré mort à l'âge de 40 ans. David Chapman a ensuite été condamné à 25 ans de prison. C'est l'histoire, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et en pour le titre, le BMKG invite la communauté internationale à mettre en place un système d'alerte aux cyclones tropicaux. Le chef de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, BMKG, Dwi Korki Takarnawati, invite la communauté ou la communauté internationale à travailler ensemble pour construire un système fiable d'alerte précoce aux cyclones tropicaux. Dans sa déclaration mercredi 7 décembre dernier, Dwi Korki a déclaré que cette étape est importante pour éviter de plus grandes pertes matérielles et immatérielles dues aux cyclones tropicaux, en particulier dans les zones touchées par les tempêtes tropicales. Lors du 10e atelier international de l'Organisation météorologique mondiale OMM sur les cyclones tropicaux IWTC-10 à Bali mardi 6 décembre, Dwi Korki a déclaré que les cyclones tropicaux sont un phénomène atmosphérique qui a un impact énorme sur les endroits qu'ils traversent. Cet impact peut prendre la forme de vents violents, des fortes pluies pendant des heures, voire des jours, pouvant entraîner des inondations, de hautes vagues et des ondes de tempête qui non seulement causent des dégâts matériels, mais peuvent également entraîner des pertes de vie. Par conséquent, fournir des avertissements de cyclones tropicaux adéquats et précis est l'un des efforts qui peut être déployé pour réduire le risque d'impact des cyclones tropicaux. Selon Dwi Korki, un solide système d'alerte précoce aux cyclones tropicaux peut être réalisé avec une modernisation technologique ainsi qu'une méthodologie d'analyse et de prévision qualifiée. On espère que les données résultantes auront un haut niveau de précision, de sorte qu'elles puissent renforcer l'anticipation et l'action précoce pour prévenir l'impact des catastrophes naturelles dues aux cyclones tropicaux. Dwi Korki a déclaré que l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle dans le domaine de la prévision et de l'alerte précoce des cyclones tropicaux devrait être d'une grande aide pour réduire le risque d'impact des cyclones tropicaux. Cependant, son application doit être effectuée de manière mûre et plus équitable, compte tenu du potentiel d'augmentation de l'incidence relative des cyclones tropicaux, montre une augmentation à la fois en termes de fréquence d'occurrence et d'intensité relative. Dwi Korki espère que l'événement IWTC, ou Atelier international sur les cyclones tropicaux, qui a été lancé au début des années 1940, pourra devenir un pont de communication, de coopération et de collaboration entre les pays dans le renforcement du système d'alerte précoce aux cyclones tropicaux. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi baru.
semakin menjauh, berlari dariku. Tak jelas lagi cintamu padaku, terasa hambar, semakin berkurang. Samar menghilang, redup kau redup, perlahan pudar, tak indah lagi seperti pertama.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Sejurita, le ministère du Tourisme et de l'économie créative a confirmé que le Taman Langit Gunung Banyak de la ville de Batu est un refuge touristique ou un site d'évacuation temporaire en cas de catastrophe naturelle. Le shelter tourisme lui-même est un concept touristique relativement nouveau. Le gouvernement voit le potentiel qui peut être développé dans le secteur du tourisme. Ainsi, la zone bénéficie non seulement d'avantages économiques en tant que destination touristique, mais peut également fonctionner comme un site d'évacuation temporaire ou définitive. En tant que destination touristique, Taman Langit Gunung Banyak offre une nature étonnante avec divers spots photo contemporains. Taman Langit Gunung Banyak est situé dans la ville de Batu, Malang, Jawa Oriental. Depuis la place de la ville de Batu, il est accessible en 23 minutes en véhicule à moteur. Pour entrer dans cette destination touristique, vous devez payer un ticket de 10 000 rupiah par personne. Le concept de ce parc représente les sept lumières du chakra humain ou ange. Par conséquent, ce site touristique est décoré de deux statues féminines zélées représentant les gens. Il existe également trois autres statues, à savoir Angsa Wahana Brahma, Garuda Wahana Vishnu et Singa Wahana Shiva. Tous sont des images de la manifestation de Dieu en tant que créateur, conservateur et recycleur. Chez Zuritok, cette émission touristique propose divers lieux de prise de vue avec un toit de fond le Mont Banyak, comme à partir du pays des fées, de Li Enerp, Signe Blanc Géant, Princesse Ailée et Année d'Oiseau Unique. Tout peut être tenté. Les touristes qui viennent peuvent prendre des selfies et se détendre tout en profitant de l'air frais. Après avoir été satisfait de prendre des selfies, les visiteurs peuvent manger au café tout en profitant de l'air frais du matin et en admirant la vue sur la ville de Batu et la ville de Pujon depuis le sommet du Mont Banyak. Pour faire de bonnes photos, il vaut mieux venir le matin. Si vous souhaitez passer la nuit, vous pouvez directement réserver un hébergement dans la zone touristique. Des hébergements pour les familles se trouvent au gare de Pantau. Si vous êtes en couple, vous pouvez réserver à la Villa Lavang. C'est Juritard, c'était notre programme, le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Sering memisahkan kita hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Sebelahmu menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Jamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Paparapa, paparapa, paparapa.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée La zone de Taman Langit Gunung Banyak dans la ville de Batu, en tant qu'abri touristique. Le directeur de la gestion des destinations du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Indra Nitua Abatu, dans l'est de Java, a déclaré le 1er décembre que l'Indonésie était située dans une zone de cercle de feu ou une zone entourée de volcans, de sorte qu'elle a le potentiel de catastrophe naturelle assez grand. Mais d'autre part, l'existence d'un volcan présente également de beaux paysages naturels, de sorte qu'il devient une attraction touristique. L'Indonésie est aussi un pays qui possède la troisième plus grande forêt tropicale humide du monde, après le Congo et le Brésil. Ces conditions, selon Indra, font que l'Indonésie doit être préparée si un jour elle est confrontée à une catastrophe. Mais en préparation, il est utilisé pour des activités touristiques. Et lorsqu'une catastrophe survient, les activités touristiques deviennent le fer de lance de la gestion des urgences en cas de catastrophe. Ainsi, le concept l'abri touristique a été créé pour le tourisme indonésien. L'abri touristique est un concept touristique relativement nouveau. Le gouvernement voit le potentiel qui peut être développé dans le secteur du tourisme. Ainsi, une zone n'obtient pas seulement des avantages économiques en tant que destination touristique, mais peut également fonctionner comme un site d'évacuation temporaire. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative a désigné la zone de Taman Langit Gunung Banyak dans la ville de Batu, Malang, comme l'abri touristique ou bien le site d'évacuation temporaire en cas de catastrophe naturelle. Il est également prévu que la création de Taman Langit Gunung Banyak sera en mesure d'attirer des investisseurs potentiels pour investir dans le développement d'un meilleur abri touristique à l'avenir. Fajar Hutomo, le personnel expert du ministre pour la gestion de crise au ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, a déclaré que la désignation de la zone de Taman Langit Gunung Banyak comme le tourisme d'accueil est une manifestation de la gestion des crises touristiques dans les destinations. Fajar estime que ce groupe de sensibilisation au tourisme doit être attendu non seulement à un groupe communautaire sensible au tourisme, mais également à un groupe d'intervention en cas de catastrophe. C'est une forme de gestion de crise communautaire. L'exécutif quotidien du directeur de la cartographie et de l'évaluation des risques de catastrophe de l'Agence nationale de gestion de catastrophe, M. Edi Suryawan Purba, a ajouté que cette activité était une action concrète faisant suite à la signature du protocole d'accord conclu entre l'Agence nationale de gestion des catastrophes et le ministère du Tourisme et de l'Économie créative. Et l'abri touristique est une bonne étape pour la gestion des catastrophes dans le secteur du tourisme. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta, kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku, sayang selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu, sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi. Oh, oh, oh. Sejak semula aku susah lupa. Menatap matanya, ku percaya cinta. Kamulah satu-satunya, cuma kamu candu di hatiku. Sayang selalu merindu, selamanya hati cuma satu. Janganlah kau ragu, sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Yeah. saja.
Serge Letard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de groupe Kaitna, qui vient de Bandung, Java occidental. Sarjoita Kaitna est un groupe de musique formé le 24 juin 1986. Actuellement, le groupe dirigé par Yofi Widianto contient trois chanteurs, à savoir Carlo Saba, Eddie Yunus et Mario Ginanjar. L'une des caractéristiques de Kaitna est son arrangement musical qui combine des éléments de jazz, de pop, de fusion, de latin et d'ethnique. Le thème évoqué est celui de l'amour avec des paroles romantiques. Pas d'exception avec la chanson Cerita Cinta. C'est l'histoire de l'amour. Cette chanson raconte le début du voyage de l'histoire d'amour de deux tourtereaux. Depuis leur première rencontre jusqu'à ce qu'ils aient tous les deux eux un sentiment d'amour et décidé de faire l'amour. Bon, chers auditeurs, voici Kaitna va chanter une chanson intitulée Cerita Cinta, l'histoire d'amour. Bonne écoute.
Cerita cinta kita.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.